Bienvenue à Evergreens by Spuekis, un podcast sur la durabilité, la technologie et l'avenir dans le secteur bancaire et financier. Présenté par Brian Ferrari, voici ses invités.
Je suis Pierre Clément, je suis le fondateur et CEO de Nexvia, une agence immobilière spécialisée dans l'existant au Luxembourg. On fait aujourd'hui partie des top 5 players de la place.
Mon nom est Charles Pletsch, je suis responsable du retail banking chez Spuekis.
Je suis Max Sidier, administrateur délégué de CDCL Group, donc on est développeur et constructeur en même temps et je suis également président de la Fédération des développeurs immobiliers au Luxembourg.
Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode Evergreen Space Pookies où aujourd'hui on va traiter d'un sujet un peu sensible à Luxembourg. On va essayer de parler un peu du marché immobilier, de l'évolution de ce dernier et de la situation actuelle. Donc, a priori, selon les chiffres qu'on constate, on peut dire que depuis 2021-2022, ça s'est légèrement amélioré et on peut parler d'une stagnation, j'aurais tendance à dire, en 2025. Quel est le ressenti de vous sur le terrain pour le marché immobilier? Est-ce que vous pouvez nous donner une image?
Je peux, sur le marché en tout cas de l'existant, il y a eu vraiment deux phases très différentes depuis une dizaine d'années, hein, jusqu'en 2021-2022. Comme tu dis, il y a eu une période un marché qui était extrêmement porteur, des taux bas, une demande structurellement forte, une offre limitée et surtout un niveau de confiance extrêmement élevé. Donc, les prix ont fortement augmenté de manière presque mécanique, je dirais, avec une période 2018-2021 où ça s'est même, emballé. Hein, on a eu des augmentations à plus de 10% par an. Et puis, la situation a complètement changé à partir de 2022 avec une situation de taux qui a complètement reconditionné, en fait, le marché. On est depuis 2022 dans une période de normalisation, cette période qui est passée par une période de correction. La correction, elle s'est passée sur l'année 2023, en tout cas, au niveau des prix dans l'existant et en tout cas sur le segment des ventes de biens existants. Le marché s'est normalisé, je dirais, depuis mi-2024 et ça fait deux ans qu'on a des prix relativement stables et un marché qui a repris néanmoins en termes de volume à ce niveau corrigé.
Sur le marché du neuf, la situation elle est encore un peu autre. Donc avant 2022, on produisait 3 000 vers 4 000 logements supplémentaires par année. Il faut quand même souligner que pour supporter la croissance de la population au Luxembourg, il nous faudrait plutôt 7 500. Et depuis la guerre en Ukraine, qui a quand même lancé une inflation et une hausse des taux d'intérêt, la production des logements a chuté drastiquement. Donc, depuis 2022, on a produit plutôt en dessous de 1 000 unités par année, avec 1 500, 1 600 l'année passée. Donc, on a quand même un delta de 3 000 unités par année qui sont produits moins qu'avant la crise. Nous, on a vu qu'avec le package d'aide qui a été lancé par le gouvernement, on a eu une légère reprise, mais vu que ce package il est arrivé à fin en juin 2025, depuis lors, on a revu une chute drastique de la production et on est aujourd'hui à un point mort, voire au point presque le plus bas depuis 2022.
Donc ça, c'est sur les nouvelles constructions, encore une fois, pour rappel. C'était quoi le package qui avait été proposé? Juste pour un rappel, bref.
C'était un package qui se composait de certaines mesures fiscales, surtout, donc une base d'enregistrement divisée par la moitié, donc ce qui donne la moitié des coûts d'enregistrement. On avait des incentifs pour ramener du volume aussi dans l'existant, comme par exemple le quart de taux sur la plus-value. Mais il faut dire que ces mesures ont surtout aidé l'existant. Donc, si on regarde les chiffres du ministère des Finances, on voit que presque 90% des aides en euros sont liées à l'existant. Il n'y a qu'une petite partie qui a été liée au neuf, mais le neuf qui contribue quand même à une production économique au Luxembourg. Donc, c'est pas parce que la grand-mère vend un appartement au Bel Air qu'elle a acheté il y a 30 ans qu'on a créé un logement supplémentaire au Luxembourg.
Non, c'est vrai, les mesures, le paquet fiscal, en effet, a aidé le marché de l'existant. C'est un marché qui est d'ailleurs toujours aidé par un certain nombre de mesures fiscales qui ont été entérinées, hein, puisque le crédit d'impôt aujourd'hui a été élevé de manière permanente à 40 000 euros par personne. Donc, ce qui fait que c'est quelque chose qui aide beaucoup, notamment les primo-accédants à acheter un bien immobilier qui souvent achètent en fait dans l'existant. Néanmoins, il y a quand même aussi d'autres mesures qui ont été mises en place pour soutenir le neuf. Je pense qu'il y a eu un retour, de l'amortissement accéléré à 6%, qui avait été proposé pour les investisseurs dans le neuf, comme aussi un crédit d'impôt location qui s'appelait, qui était de 20 000 euros par investisseur particulier. Je pense que, en effet, le neuf subit aussi beaucoup l'absence ou le retrait, en tout cas, des investisseurs, notamment particuliers, pour cette classe d'investissement. Et moi, un point que je voudrais lever aussi, c'est qu'il y a une contrainte dont on parle peu, mais qui a aussi mis un frein déjà dès 2021 sur l'investissement dans le neuf, c'est l'apport minimum de 20% qui a été introduit. Et il faut en plus financer les frais accessoires en fonds propres. Donc, ce qui fait qu'en fait, vous devez apporter pratiquement 30% de fonds propres quand vous achetez un bien immobilier au Luxembourg. Donc, avec le niveau de prix existant, ça retire du marché énormément d'épargnants historiques qui étaient probablement clients bancaires classiques avec un bon job, qui avaient une capacité d'épargne de 1000, 1500, 2000 euros par mois et qui, plutôt que de les mettre dans des produits financiers, allaient acheter un appartement financé par une banque à 100%. Aujourd'hui, ces clients, même s'ils le voulaient, ne peuvent plus parce que cette barrière existe. Et ça, c'est quelque chose aussi qui a énormément, à mon avis, freiné la construction de neuf, puisque quand on regarde historiquement, je regarde les grandes résidences qui ont été créées à Luxembourg-Ville, une dans laquelle j'habite par exemple, 60-70% des propriétaires sont en fait des investisseurs et particuliers.
Bon, en fait, qu'est-ce qui a freiné donc la vente au fait état d'achèvement? C'est clairement la crise de confiance. Donc, en 22, il y a les taux qui ont augmenté, il y a eu des promoteurs qui ont eu des problèmes, il y a des garanties d'achèvement qui ont dû être effectivement, pour presque la première fois au Luxembourg, être vraiment utilisées. Et il s'est avéré que la garantie d'achèvement, elle s'appelle garantie d'achèvement, mais c'est pas vraiment l'achèvement qui vraiment compris. Et en plus, il y a les problèmes avec le coût du terrain. Donc, grande crise de confiance, en fait, des consommateurs. On le remarque chez nous. Donc, c'est surtout ça, selon nous, le problème, en fait, en ce qui concerne l'effondrement de ce marché VFA. Donc, avant, on faisait, par exemple, pour vous donner un chiffre, 25 à 30% de notre production sur des biens sur plan. Actuellement, on est à 10-15%. Donc, pour dire, en fait, effectivement, l'impact de tout ça. Donc, effectivement, ces 20% existent depuis un moment pour les investisseurs, mais c'est pas seulement limité donc pour l'existant, mais aussi pour le neuf, mais aussi pour l'existant. Donc, je ne suis pas vraiment persuadé que c'est ça le principal frein. Mais pour moi, le principal frein, c'est le manque de confiance des gens qui ont peur, effectivement, de se lancer dans une aventure sans fin, avec un promoteur qui n'est plus pas achevé, finalement, le bien. Et c'est surtout ça, selon moi, là où le bât blesse.
Il y a effectivement une crise de confiance. Et nous, en tant que développeurs, nous sommes conscients de cette crise. C'est pour ça que nous, on a lancé en interne chez nous certaines mesures pour essayer de donner un peu plus de confiance ou de confort aux acquéreurs potentiels. Donc, on a, par exemple, lancé un site web, charte.lu, qui reprend une charte à laquelle les développeurs peuvent adhérer. Donc, il y a aussi, entre autres, des banques qui supportent cette charte. Donc, je pense quand même là, je veux qu'ils aient un lien vers la charte sur le site web, charte avec laquelle on veut établir plus de transparence, plus de sécurité pour les acquéreurs, pour y arriver à rétablir la confiance. Mais on est aussi d'avis qu'il faut adapter les articles dans le code civil qui concernent la VFA à la situation comme elle est aujourd'hui. Donc, ces articles, ils datent quand même de quelques décennies. Donc, je peux aussi confirmer que la ministre de la Justice a lancé les consultations pour proposer prochainement une mise à jour potentielle de ces articles. Donc, nous, on supporte aussi une assurance décennale obligatoire pour donner de la confiance aux gens qui seraient donc inscrits dans le code civil. Mais il faut aussi régler la faillite potentielle d'un développeur, parce qu'aujourd'hui, si un développeur tombe en faillite, ceux qui ont acheté, ils deviennent copropriétaires en indivision d'un projet non achevé, ce qui pose effectivement un grand problème aux particuliers qui ont acheté dans un tel projet. Donc, ce que nous, on veut à court terme établir, c'est avec Charte.lu, donc de la confiance. Je peux que rappeler aussi de vérifier chez qui vous achetez, quelle est la qualité du projet pour éviter toute mauvaise surprise en cours de route.
En tant qu'externe, hein, c'est pas mon métier l'immobilier, d'entendre que c'est une crise de confiance, j'aurais tendance à dire que c'était une crise d'abordabilité, non ? Parce que les prix, comme Pierre le disait, les prix ont augmenté de façon impressionnante quand les taux étaient très bas, et puis les salaires n'ont pas suivi. Donc,
là, je peux clairement confirmer, parce qu'effectivement, les prix étaient dopés par des taux très bas. Je peux de nouveau donner un exemple. Par exemple, si en début 2021, on avait un budget de 3 000 euros à disposition et on faisait un financement sur 30 ans. Donc, avec ces 3 000 euros et un taux de 1,60, ça c'était le taux à l'époque, taux fixe 30 ans, si on s'imagine, on pouvait emprunter 850 000 euros. Maintenant, avec le même budget, 3 000 euros, on peut emprunter 570 000 euros. Donc, une différence de 280 000 euros. Donc, c'est énorme. Et ça explique aussi, effectivement, que les gens ne peuvent plus se permettre de suivre ces prix-là qui sont actuellement sur le marché. Et ça, c'est le principal problème actuellement, certainement.
Et c'est vrai de le rappeler, c'est le pouvoir d'achat immobilier qui a énormément baissé. Ce dont on parle ici, c'est une baisse de plus de 25% de la capacité d'achat des particuliers. Donc, c'est ça qui, évidemment, est le premier frein à l'achat et aussi à l'achat dans la VFA de logements pour les particuliers. En plus de ça, vous avez des opérations qui sont extrêmement coûteuses aujourd'hui quand vous faites un crédit pont pour acheter un nouveau bien neuf de plus grande taille, par exemple. Et donc, c'est des opérations qui sont beaucoup plus difficilement supportables qu'elles n'étaient auparavant. En fait, on est passé d'un marché qui était simple, avec beaucoup d'acteurs dont tout notre entourage qui, il y a 10 ans, en fait, ont fait de superbes opérations immobilières, même sans le vouloir. Ils ont souvent acheté un premier appartement qu'ils ont vendu plus cher qu'ils ne pensaient et ils ont reçu une nouvelle maison ou un nouvel appartement qui valait encore plus cher que quand ils l'ont acheté sur plan. Donc ça, c'était vraiment évidemment un contexte qui était très 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 bénéfique et tout ça a donné une confiance extrêmement élevée, peut-être aveugle d'ailleurs. Et aujourd'hui, depuis 2022, on se retrouve en fait dans une situation qui est inverse et aussi avec des gens dans nos entourages qui ont eux malheureusement, souffert de cette situation. Potentiellement ont vendu leur appartement moins cher qu'ils ne pensaient et ont acheté un bien sur plan qui vaut en tout cas pas plus que ils ne l'ont acheté. Donc c'est évidemment ça aussi qui fait que les gens ont une appréhension bien plus importante quand ils vont dans l'achat immobilier. Heureusement, l'achat immobilier reste un objectif primaire, surtout quand c'est son logement. Donc, on veut tous avoir un toit qui nous appartient. Et donc, c'est ça qui conduit néanmoins le marché
à être oui. relativement résilient.
C'est un facteur important, c'est vrai. Préfinancement d'un bien existant qu'on veut vendre en attendant que l'autre bien donc soit terminé respectivement aussi. Qu'on doit faire passer à l'acte et payer le prix d'acquisition. Et effectivement, à l'époque, c'était rapide. On faisait en plus une plus-value. Actuellement, dans les plans de financement, on remarque que c'est une grande inconnue. Donc nous, en tant que banque, on est aussi beaucoup plus prudent sur ce sujet. Donc et on dit effectivement le prix en fait auquel le client s'attend à ce que c'est vraiment le prix du marché actuel. Et ça, en fait, on a vécu effectivement beaucoup d'aventures dans le sens où effectivement le bien n'est pas parti au prix. Et après, en fait, le plan de financement initial qu'on avait mis en place ne tenait plus la route. Donc, c'est aussi quelque part qui rend la chose encore plus compliquée de financer un bien actuellement.
Il faut nuancer quand même un peu la discussion pour tout ce qui est VFA, donc vente sur plan, puisque l'accession, vous connaissez vos coûts pour la VFA. Il faut quand même dire que les coûts de construction, ils ont énormément augmenté depuis 2021-2022. Donc, on parle quand même d'une bonne trentaine de pourcents sur les terres premières. On a eu des indexations sur salaire qui représentent plus de 16% d'augmentation. On a des normes qui sont imposées par le législateur, qui se les voit pour certains cas imposées par l'Union européenne, qui augmente les prix de revient également. Donc, mais en même temps, il faut aussi dire que les prix pour les prix nominaux pour le neuf n'ont pas augmenté, tandis qu'on a eu 16% d'augmentation sur les salaires. Une question que nous on pose souvent, c'est pourquoi on n'a pas plus de support du niveau banque et régulateur pour le modèle suisse. En Suisse, vous financez votre terrain sur 30 ans en boulette, donc vous ne payez que les intérêts. Et au Luxembourg, chacun doit avoir repayé tout son bien immobilier dans lequel il habite avant qu'il part en retraite.
Oui, boulette, ça veut dire qu'on paye des intérêts sur un certain montant, et ça a aussi un coût, donc c'est pas gratuit. Donc effectivement, on pourrait peut-être aller dans le sens, mais à la ligne, enfin, au bout du compte, c'est quand même, ça rend HEI pour le budget mensuel du client quand même la donne aussi. Donc je sais pas si vraiment ça pourrait être la solution. De faire des financements in fine, comme on les appelle aussi, pour les terrains. Mais les terrains, c'est aussi un sujet, prix des terrains. Qu'en est-il des prix du terrain? Donc, est-ce que, en fait, si on observe un peu le marché, ils n'ont pas vraiment beaucoup bougé, les prix des terrains. Donc, là aussi, c'est quand même une partie importante, du coût d'un logement.
Bah, c'est la variable d'ajustement, hein. Faut être quand même très clair. Il y a des contraintes qui sont incompressibles, hein. Et Max l'a bien dit. En effet, je pense que la situation d'un promoteur aujourd'hui est pas évidente. Ils ont aussi, c'est leur objectif, hein, de produire du logement, acquis des terrains à un moment où tout le monde aussi se battait pour les avoir, donc payait cher. Et aujourd'hui, en plus, le coût de construction est bien plus élevé qu'il n'était auparavant. Des mesures énergétiques qui sont certes bénéfiques pour le long terme pour le parc immobilier, mais néanmoins qui font que le coût de construction est encore plus élevé. Et donc, les projets, en tout cas en cours, et le stock, c'est le sujet du prix est difficilement modifiable, ou en tout cas ou assez certaines limites. Demain, dans un marché différent ou restructuré, là le prix du terrain, à mon avis, est bien moindre que ce qu'il était en 2021.
Maintenant, on a tous un problème, je crois, à Luxembourg, c'est que le développement du pays, il est intrinsèquement lié au logement abordable. Si on entend un peu tous les chefs d'entreprise, le principal problème, c'est d'attirer des gens. Et les gens, bah, malgré les hauts salaires, ils sont réticents à venir à Luxembourg parce que les logements sont assez chers. Donc, est-ce que vous voyez peut-être aussi d'autres discrépances dans le marché immobilier, un changement de demande? Est-ce qu'il y a plus d'employés nomades qui viennent juste pour 2-3 années, ce qui explique que le marché locatif se porte mieux? Ou est-ce que c'est pas quelque chose que vous observez?
on va pas résoudre la crise actuelle avec le logement abordable. C'est ce que certains gens souhaiteraient, mais si on reste réaliste, c'est pas la solution magique à tous les problèmes. Le logement abordable, effectivement, on a eu une déficience au Luxembourg. En partie, c'est bien que l'État investit dans le logement abordable, qu'il met plus de logements à disponibilité des gens qui ont certains salaires, même avec des salaires quand même assez bien. Vous avez accès au logement abordable, mais la crise, elle se résoudra par le volume de production de logements global. C'est pas parce qu'on construit maintenant 700 au lieu de 350 logements abordables qu'on résout la crise. Il nous faut plus de 7000 logements par année pour sortir de la crise. Et c'est irréaliste qu'on construira maintenant 7000 logements abordables par année, surtout avec les contraintes budgétaires qu'on a. On veut quand même rester proche des 30% d'endettement étatique. On veut garder notre AAA. Et donc, il faut trouver d'autres solutions que de miser tout sur du logement abordable.
Je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, à l'époque, à la limite, on faisait déjà un gain tant qu'on attendait. Donc, à la limite, on peut dire que time was your friend. Et là, maintenant, le coût d'emprunt, il est plus cher. Les terrains, on ne sait pas quelle est l'évolution. La mise en place d'un logement, ça met beaucoup plus de temps aussi. Est-ce qu'il ne faudrait pas accélérer du moment de la décision de l'achat jusqu'à la mise à disposition? Est-ce que vous voyez des pistes pour rendre ça plus fluide, plus agréable pour l'acheteur? Et est-ce que ça aurait un impact sur le marché?
Je me mets juste du côté de l'acheteur, hein, de la demande. L'acheteur, lui, ce qu'il adorerait, hein, c'est d'avoir un bien qui est fini ou pratiquement fini et dans lequel il va pouvoir emménager dans les 6 mois. L'acheteur, ce qu'il veut, c'est pouvoir se projeter facilement et diminuer son risque. Donc évidemment, s'il y avait une solution pour que il y ait des logements neufs qui sortent et qui soient directement disponibles sans avoir à attendre 30 mois comme c'est le cas dans une VFA classique, c'est un sujet que ça serait très intéressant. Malheureusement, il y a tellement de contraintes dans ce sujet du logement, de contraintes derrière que je crois qu'on peut en parler ici, on est dans une banque. Je suis pas sûr que les banques peuvent aujourd'hui financer à blanc de la construction pour un promoteur, ou en tout cas le coût serait énorme par rapport aux capitaux que ça nécessite de mobiliser au niveau de la banque, et donc ça rendrait en fait le produit encore plus cher. Donc en fait, on est vraiment pris dans une situation qui est pas solutionnable facilement.
En tant que développeur, je te rejoins. Pour nous, le meilleur projet, c'est un projet qui est rapide, où on a les infrastructures qui sont développées rapidement, où il y a le plan d'aménagement qui est développé rapidement et où on vend rapidement, où on construit rapidement et de bonne qualité, et où on a par après des acquéreurs qui sont contents. C'est aussi pour les développeurs, c'est ce qu'il faut. Aujourd'hui, la problématique, c'est effectivement le lancement de la construction. Parce que si vous avez acheté un terrain à X, même s'il était peut-être 10% trop cher, si vous devez lancer la construction, vous mettez encore une fois, trois fois ou deux fois le montant que vous avez déjà investi à risque si vous ne vendez rien. Donc au lieu d'avoir investi 100 et d'avoir 100 à risque, vous rajoutez encore une fois 200 ou 300 pour la construction et vous ne savez pas si vous allez vendre ou non. Donc, les développeurs au Luxembourg, ils ont quelques milliers d'unités qui seraient prêts à être lancées dans la construction disponible, mais il n'y a personne qui lance un projet sans prévente s'il n'a pas un financement derrière.
Il y en a certains qui peuvent se permettre, qui lancent effectivement des projets et qui terminent donc les maisons et les appartements et qui les vendent. On observe ça dans nos dossiers. Mais bon, il n'y a pas tous les promoteurs qui peuvent se permettre de pouvoir préfinancer des grands projets et ensuite les vendre lorsqu'ils sont achevés. Donc, mais ça marche. Donc, de nouveau, oui. Là, les gens sont plus à l'aise parce qu'ils voient ce qu'ils peuvent acheter. Il n'y a pas cet inconnu donc du vente en futur état d'achèvement.
Aujourd'hui, il y a surtout un problème de, à part de confiance dont on a déjà parlé, mais si on regarde un peu plus techniquement, plus financière, il y a un problème de volume de financement qui est disponible pour créer du logement. Donc, au Luxembourg, ben, on a aussi mis, on a déjà parlé de logement abordable aussi, mais on a mis beaucoup sur du primo-acquéreur et sur ce qu'on appelle en luxembourgeois le Mittelstand qui s'est acheté un appartement supplémentaire pour le mettre en location et le louer à quelqu'un. Aujourd'hui, les primo-acquéreurs, c'est quand même un nombre limité, donc ce sont pas non plus les primo-acquéreurs qui vont sauver le marché luxembourgeois. Et ce qui manque complètement, si on le compare à l'étranger, ce sont des investisseurs institutionnels ou professionnels qui achètent en grand volume des logements et qui peuvent être un pilier supplémentaire sur le marché. Si vous regardez, par exemple, les pays Amérique du Nord, vous avez des REITs, Real Estate Investment Trusts, il y a des fonds de caisses de pension, par exemple, qui investissent beaucoup dans l'immobilier résidentiel. Dans d'autres pays, vous avez des grosses sociétés cotées, comme par exemple en Allemagne, Vonovia, qui a quand même pour une vingtaine de milliards d'immobilier. Vous avez dans d'autres pays, vous avez des fonds d'investissement qui donnent quand même une liquidité de base, un volume de base sur le marché immobilier, groupe d'investisseurs qui est complètement absent aujourd'hui du Luxembourg.
J'ai vu sur LinkedIn quelqu'un de relativement influent qui disait que en fait, si je dois acheter un investissement et si on me demande 17% et 7% de frais, je le ferai pas. Donc il faisait évidemment allusion à la TVA et aux droits d'enregistrement. Est-ce que ça serait pas un levier pour un peu ajuster ça, si on veut vraiment être honnête pour augmenter de nouveau la demande?
Je pense que tout incitant fiscal qui permet d'avoir un prix final qui est plus bas va remettre des investisseurs, des particuliers dans le marché. Ça c'est évident, mais si vous pensez que le prix est potentiellement un peu haut et qu'il y a des incertitudes, vous y engagez pas. Donc c'est sûr que quand il y a un incitant, et on l'a vu hein, quand il y a eu le paquet de mesures, ça a quand même redéveloppé les ventes. Et quand on regarde les chiffres officiels sur les mois, enfin sur le deuxième trimestre 2025, troisième trimestre 2025, puisque tout ce qui était acté, enfin signé avant 30 juin mais acté avant le 30 septembre, pouvait bénéficier de ces aides. Bon, on a vu à peu près un doublement de la volumétrie sur la vente en VFA. Donc néanmoins, ça ramène toujours une partie des investisseurs, en tout cas là cette fois-ci particulier parce qu'il n'y avait pas d'aide pour les personnes morales, en effet ça ramène cette population qui est en attente d'une aide pour investir. Et je suis persuadé que aujourd'hui les investisseurs, en tout cas tous ceux à qui moi je parle, des particuliers, attendent le nouveau paquet de mesures. Et là, ils ne bougent pas. Ils se disent, je vais pas acheter alors que dans deux mois probablement il va y avoir à nouveau un amortissement accéléré ou une autre mesure qui va permettre de réduire leur coût. Les gens sont opportunistes. Donc en effet, ça crée un frein. Donc soit, je pense que si il faudrait d'ailleurs potentiellement relancer des aides, mais qui sont aussi plus stables dans la durée pour ramener de manière un peu plus pérenne ces investisseurs. Et je crois qu'il vaut mieux encaisser un peu moins de TVA, un peu moins de frais d'enregistrement, mais en encaisser quand même plutôt que de n'avoir aucune vente.
Il faut effectivement pas oublier, s'il n'y a pas de construction et s'il n'y a pas de vente, vous pouvez bien... Beau avoir 17% de TVA en taux applicable, mais si la base sur laquelle on l'applique, 0 euro fois 17% de TVA, ça donne 0 euro. Donc, moi, en tant qu'entrepreneur, j'aurais préférence à toucher 8% sur 1 milliard que 17% sur rien.
Et en plus, il faut aussi entretenir le know-how, donc le savoir en construction qu'on a, parce que là aussi, on a des problèmes, parce qu'on a beaucoup de gens qui... se rapproche de l'âge de la retraite, non? On aura un problème de main-d'œuvre qualifiée aussi.
On a déjà le problème aujourd'hui. Si on regarde les chiffres du Statec, on a plus de 4800 emplois qui ont disparu dans le secteur de la construction depuis 2022. 4800 emplois, c'est 20 fois le plan social duquel on parlait d'Amazon et qui a rempli les journaux pendant 2 semaines. Et donc ici, silencieusement, il y a eu 20 fois ce montant d'emplois qui ont disparu, qui manquent aussi à l'économie luxembourgeoise et où il faut quand même aussi être conscient que pour amener ces gens-là dans l'emploi ou leur savoir-faire de nouveau dans le secteur, ça va prendre un certain temps. Donc même s'il y aurait assez d'acquéreurs, on aura du mal à réatteindre les volumes de logements qu'on a produits avant 2022.
Maintenant, pour ces gens qui sont en train de réfléchir pour acquérir un bien secondaire ou neuf, ou aussi monter un dossier auprès d'une banque, quels sont selon vous les aspects à considérer? Je ne sais pas si tout le monde pourrait mettre en avant le plus important ou les deux plus importants points pour quand il y a une réflexion à l'acquisition d'un bien. Quels sont les facteurs primordiaux qu'il faut se mettre en tête?
Je pense que la bonne nouvelle dans ce marché, c'est qu'il est un peu moins fou et donc on a un peu plus le temps de réfléchir quand on achète un bien immobilier. On a souvent plus de temps pour faire plus de visites, plus de temps pour négocier potentiellement. Et en tout cas, je pense que ce qui est important aujourd'hui dans son achat, c'est d'être rationnel, que ce soit d'ailleurs dans la VFA, que ce soit dans l'existant. Donc, il ne faut pas louper les éléments, je dirais, essentiels quand on achète un bien. Aujourd'hui, c'est très important d'avoir un bien qui comporte, je prends un appartement, qui va avoir un extérieur, qui va avoir un garage, qui va être, la localisation est importante. Si ces critères essentiels ne sont pas là, en tout cas, le prix doit être en conséquence. Et je pense qu'aujourd'hui, de ce point de vue-là, le marché est beaucoup plus sain puisqu'on voit des différenciations de prix entre typologies de biens qui sont très, très différentes. La bonne nouvelle, c'est que nous, on voit ce qui se vend bien, c'est évidemment les appartements récents et très récents. Et là, on a même une résilience de prix qui a été nettement plus forte que sur les biens anciens. La performance énergétique est un critère clé. L'absence de travaux à prévoir dans les quelques années est un élément très important. Les gens veulent de la prévisibilité. Donc moi, mon conseil, évidemment, pour des gens qui achètent sur le marché secondaire, c'est de s'assurer la qualité du bien, des éléments intrinsèques, et puis, évidemment, d'obtenir toute la documentation qui est liée à l'état de celui-ci, qu'on peut voir dans le PV des AG, AG ordinaire, AG extraordinaire. Tout bon agent immobilier doit vous fournir l'historique sur au moins 3 ans. De la même manière, il ne faut pas hésiter quand vous achetez une maison, encore plus celle qui nécessiterait des travaux ou celle qui aurait quelques points de fragilité visuelle, de faire venir un expert avec vous pour s'assurer que l'état du bien est bon et qu'il ne va pas nécessiter de travaux importants dans les prochaines années. Donc, la bonne nouvelle, c'est que le marché est quand même moins tendu. De ce fait-là, on a le temps, en tout cas, de bien qualifier son achat.
Peut-être une question un peu méchante parce que tu es dans une position un peu bizarre avec Nexvia. Les prix affichés, est-ce que tu as un ordre d'idée de grandeur où c'est négociable entre vendeur et acquéreur, ou est-ce que tu vois là plus de flexibilité que ce n'était le cas avant?
Alors, il y a beaucoup plus de flexibilité aujourd'hui, de manière tout à fait honnête, par rapport aux années jusque 2021. Je rappelle les faits. Nous, quand on vendait jusqu'en 2021, on s'est toujours efforcé chez Nexvia de mettre un prix qui collait à la réalité ou à un prix correct. Il nous arrivait régulièrement de vendre au-dessus du prix
affichée en raison de la demande extrêmement forte. C'est aujourd'hui quelque chose qui arrive plus ou pratiquement plus. Et néanmoins, en priçant le bien correctement, on a de la négo, mais qui est limitée. Donc chez nous, elle est limitée. Elle peut être plus importante sur des maisons, et notamment des maisons sur lesquelles il y a de la rénovation. Et là, on peut arriver jusqu'à des 10% de négociation. Ça peut arriver. Néanmoins, je dirais que une négo classique, c'est plutôt entre 2 et 5% du prix affiché.
Et dans la VFA, à quoi penses-tu qu'il faut vraiment faire attention? Est-ce qu'il vaut mieux commencer de zéro ou peut-être être opportuniste et regarder quelque chose qui est déjà en phase de construction?
Si vous avez, ou si vous considérez la décision d'acheter un bien en VFA, il ne faut pas attendre une baisse de prix qui va probablement jamais arriver. C'est comme chez les actions où on attend toujours le meilleur moment pour acheter et pour vendre qui n'existe pas vraiment. Et donc, c'est pas qu'il faut attendre une baisse de prix, mais il faut surtout bien analyser la qualité du bien qu'on achète. Il faut bien analyser qui construit le bien. Il faut bien analyser la solidité du développeur chez lequel on achète. Si on considère ces trois points-là, je pense que ceux-là, ils sont plus importants que de se mentir soi-même et en achetant pour un prix qu'on trouve, qu'on pense est le plus bas possible. Puisqu'il faut quand même aussi se poser des questions si vous avez un développeur qui vous donne une remise de 20% sur votre bien.
Et comment on fait ça, justement regarder la solidité d'un développeur maintenant pour nos écouteurs?
Je pense qu'une fois votre banquier il fera son analyse aujourd'hui du développeur, après il y a le registre de commerce qui est publiquement disponible pour tout le monde, donc vous pouvez aller voir un peu ce qui est publié. Sinon il faut demander à votre fiduciaire, un collègue qui peut être avocat ou autre qui est habitué à faire ces analyses. Nous on a parfois l'impression, on l'avait au moins avant en 2022, que certaines personnes s'intéressaient plus à leur catalogue s'ils achetaient une voiture qu'au cahier des charges s'ils achetaient un bien immobilier qui vaut quand même 10, 20, 30 fois le montant d'une voiture.
Et le banquier,
il faut quand même pas oublier, c'est pour la plupart de la population, c'est la décision d'investissement la plus majeure ou la plus importante de toute leur vie.
C'est un fait. Donc, il faut pas rien laisser au hasard. Donc, nous, on dit toujours, avant de se lancer sur le marché, venez voir le banquier déjà pour voir, en fait, votre capacité d'emprunt, pour connaître votre budget et aussi connaître un peu, en fait, tout ce qui se passe sur le marché parce que les gens ne connaissent pas, en fait, le droit d'enregistrement, je sais pas, la TVA tout réduit, toutes ces choses-là. Il faut quand même qu'on leur explique. Et déjà, quand on met une première esquisse d'un plan de financement, et aussi, effectivement, si on achète en futur état d'achèvement, cahier des charges, ça c'est un élément très important qui peut aller de 2 pages à 20 pages ou 30 pages. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont inscrites et les gens ne comprennent pas. Donc, il y a quand même le conseiller logement qui a l'habitude de lire un cahier des charges et peut dire où il y a encore des coûts qui sont cachés quelque part dans le cahier des charges. Il faut faire attention. Et ça a un grand impact après pour le plan de financement. Effectivement, si on boue du projet, qu'on arrive aussi donc à tout boucler. Donc ça, c'est très important. Donc déjà, en fait, voir qu'est-ce que je peux me permettre ensuite pour observer le marché. Bon, il y a beaucoup d'outils ou de possibilités de le faire, de voir un peu où je peux me permettre d'acheter quelque chose. On a plus le temps actuellement, c'est vrai, surtout si on n'a pas fait un préfinancement, ça c'est plus facile. Un préfinancement, ça rend encore, effectivement, qu'on a déjà dit, le sujet un peu plus compliqué. Mais quand même, donc, je dirais, effectivement, renseignez-vous bien aussi sur quel taux prendre, parce que ça aussi, c'est très important, surtout en cette situation où on est actuellement, avec quand même une augmentation de taux qu'ils ont déjà pressé dans les taux fixes, mais aussi est-ce que moi je prends ton variable taux fixe et effectivement se renseigner sur le promoteur ou le constructeur. C'est au Luxembourg quand même possible, c'est un petit pays, on arrive quand même à avoir ces informations-là. Donc, effectivement, les gens se renseignent souvent plus sur la voiture que sur, effectivement, un promoteur. Et bon, et aussi, garantie d'achèvement, s'il y en a, qui a émis la garantie d'achèvement? Ça aussi, c'est un élément important. Il y a différents acteurs. Les banques classiques, donc, quand même, font une analyse du dossier, du promoteur, de la solvabilité. C'est déjà quand même un élément, quand même, qui peut, donc, rassurer les gens. S'il y a une banque établie qui a, en fait, émis la garantie d'achèvement, le projet a été, et le promoteur a été quand même analysé de bout en comble, donc.
Est-ce que la banque refuse aussi des dossiers de financement, même si le client est en capacité de se le permettre financièrement, disant que oui, la banque dit c'est pas la juste valeur selon ce qu'on calcule?
Tu veux dire pour des préfinancements, par exemple, on a un bien qu'on veut vendre et acheter à nouveau. Parfois, on le refuse pas carrément, mais on dit on veut une vente au préalable. Donc d'abord la vente du bien et ensuite on rejoint ton projet. Donc on refuse parfois des préfinancements, on n'est pas d'accord sur la valeur. Ça arrive.
Oui, et nous on le voit aussi en effet que la valeur qui est reprise par la banque n'est pas forcément celle à laquelle l'estimation est faite, et donc ça te donne une correction, et où qu'il faut la banque demande alors qu'il y a un apport en fonds propres qui se fasse pour combler cet écart-là. Donc évidemment, bah là ça bloque pour pas mal de dossiers, ça passe plus. Ce qu'on appelle communément dans le marché du home sizing, donc quand on achète un bien plus grand, c'est pareil avec le crédit pont, bah vendre, se mettre en loc pour attendre son nouveau bien en construction vendu par un promoteur, vous imaginez un peu la démarche que c'est quand même compliqué. Donc c'est vrai qu'avant le marché était complètement facilité avec des prix avec des taux à 1,5%, le crédit pont ça coûtait pratiquement rien, en plus les intérêts étaient sont toujours intégralement déductible, mais ça coûtait vraiment zéro, c'était peanuts quoi. Donc les gens y allaient sans aucun problème, les banques avaient confiance aussi dans le marché, les prix ne faisaient qu'augmenter. Et c'est vrai que un tel retournement en fait des conditions de taux a complètement changé la donne, et le marché immobilier, que ce soit d'ailleurs à Luxembourg ou dans d'autres grandes capitales européennes, a considéré probablement que des taux à 1,5% c'était la normalité, et que le pricing de l'ensemble des biens devait se faire avec des taux à 1,5%. Ce qui est faux. La correction s'est faite déjà, donc sur l'existant, en tout cas une correction un peu plus importante que dans le neuf, même s'il y a déjà eu aussi une correction dans les chiffres de vente de neuf, mais qui comble même pas le différentiel de capacité en fait d'achat lié au taux. Donc on est, à mon avis, arrivé à la limite haute des prix. On y était déjà arrivé en fait en 2021-2022, et la correction qui s'est faite est exclusivement liée au taux. Et heureusement, on a néanmoins un pays quand même qui est très stable, avec des gens qui ont des hauts revenus et qui permet néanmoins à ce que des transactions se fassent. Alors j'aimerais aussi pour le pays qu'elles se fassent, qu'il y ait beaucoup plus de transactions qui se fassent dans le neuf, pour qu'on contribue à l'effort de logement du pays, parce que finalement le problème du logement, c'est pas pour les gens comme nous autour de la table qui ont souvent acquis leur logement il y a 10 ans. On a un coût du logement qui est relativement raisonnable par rapport à nos situations de job d'aujourd'hui, mais par contre le jeune qui arrive aujourd'hui à Luxembourg, ou même qui a 30 ans, qui gagne 80 000 euros brut, il peut difficilement se loger très correctement, ou en tout cas le logement qu'il a n'est plus attractif par rapport aux autres endroits d'ailleurs où il peut avoir un job. On lui propose un job, puisque les gens qui viennent à Luxembourg, c'est des gens mobiles et qui souvent ont le choix de venir à Luxembourg, mais aussi d'aller à Londres, d'aller à Francfort, d'aller à Paris, et en tout cas si le logement est encore plus n'est pas plus avantageux ou plus inaccessible que dans ces villes-là, le choix va peut-être se déporter sur une autre ville.
Ce qui me manque quand même toujours dans cette discussion du prix, c'est on oublie qu'il y a deux variables qui définissent le prix final d'un logement. C'est une fois l'euro par mètre carré campé sur lequel tout le monde se penche toujours. Il y a aussi encore la variable taille du logement, donc les mètres carrés sur lesquels ce euro par mètre carré est appliqué. Si on compare le prix euro par mètre carré avec d'autres capitales européennes, pour des quartiers similaires qu'on trouve au Luxembourg, on n'est pas si élevé que ça. Après, si on compare la taille des logements, on est très élevé. Donc, on s'est créé aussi au Luxembourg quand même une attente spécifique à la taille du logement où une chambre doit avoir au moins 16, mieux 18, encore mieux 20 mètres carrés, où il faut avoir des living de 50 mètres carrés. Si vous allez voir dans d'autres capitales européennes, on a beaucoup plus d'offres avec des appartements ou des logements qui ont une taille qui est quand même bien inférieure à ce qu'on propose ici au Luxembourg. On a au Luxembourg, on a un élément externe, un peu externe, ce sont les densités de logements qui sont inscrits dans le PAG qui nous impose certaines tailles de logements. Donc parfois, le développeur, il n'a pas d'autre choix que de créer de grands logements s'il veut utiliser ou maximiser utiliser le potentiel constructible, mais il faut pas se mentir. Donc si on veut 5 chambres et un living de 100 mètres carrés, n'importe si le prix par mètre carré sera 11 000 ou 12 000 euros le mètre carré en quartier résidentiel Luxembourg-Ville, l'appartement sera cher.
Oui, et ça, c'est un constat que je vois, évidemment. Franchement, le nombre de studios qu'on peut faire, par exemple, dans une nouvelle résidence est toujours très restreint. Et il est vrai que pour accueillir la jeune population active qui arrive au Luxembourg, je pense que beaucoup préféraient pouvoir louer un petit studio à un prix raisonnable plutôt que de se retrouver, en fait, dans des colocations qui ont été... des maisons qui ont été restructurées en coloc ou même des grands appartements qui sont finalement divisés en chambres et que, d'ailleurs qui payent extrêmement cher. Et je pense qu'il faut quand même que au niveau des plans d'urbanisation ou en tout cas des projections, enfin qu'on construise par rapport aux besoins réels. Nous on voit le besoin réel aujourd'hui des gens, c'est d'habiter en ville. On est dans un pays qui est extrêmement centralisé, les jobs sont pratiquement tous beaucoup à Luxembourg-Ville et la nouvelle génération n'a pas de voiture ou c'est des gens qui ont habité dans des capitales souvent précédemment, ils sont pas habitués à avoir une voiture. Et donc, ces gens-là, par contre, eux, ils veulent être vraiment dans la ville, utiliser les transports en commun. Mais par contre, être à côté du commerce, être à côté de la salle de sport, être à côté du bar où ils vont pouvoir aller boire un verre avec leurs amis le soir. Et je pense qu'il est plus agréable de vivre dans un petit logement bien fait, mais où vous avez autour tout ce dont vous avez besoin. Et c'est vrai que l'habitat actuel tel qu'il est dimensionné ne correspond pas à la demande, surtout de petits logements, qui fait qu'en fait, aujourd'hui c'est un peu malheureux, mais on loue une chambre qui fait souvent 45-50 mètres carrés à Luxembourg à 1800 euros.
Voire plus.
Parce qu'il n'y en a pas assez.
Parce qu'il n'y en a pas assez. Et puis si aussi on faisait des studios, plus de studios de 30 mètres carrés, le prix d'achat serait moins élevé. Et évidemment, les bailleurs pourraient les louer à un prix moins élevé.
Bon, les pistes d'amélioration, il y en a un paquet. Je pense que c'est pas à nous aujourd'hui de résoudre tout ça. Je pense qu'on a donné un beau topo et peut-être un peu les différents points de vue.
Evergreens by Spurkiss. Restez à jour avec tous les épisodes en vous abonnant à notre podcast.